filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vos témoignages sur la hausse des prix du carburant. Au Sénégal, les prix à la pompe ont augmenté de 100 francs. Au Congo-Brazzaville, la hausse est de 5%. En Centrafrique, tenez-vous bien, les prix du carburant ont augmenté de 50 à 80% selon les produits. Au Cameroun, certains experts s'attendent également à une augmentation des prix, en tout cas depuis quelques jours. Yaoundé, la capitale, est en situation de pénurie, les stations-services sont prises d'assaut. Alors, quelles en sont les conséquences dans votre vie quotidienne? Quelles mesures sont mises en place dans votre pays pour vous accompagner, vous, consommateurs, chefs d'entreprise? On a envie de vous entendre. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Et j'ai déjà sous les yeux des dizaines et des dizaines de témoignages et de réactions postés sur nos réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook RFI, Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI, vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre en direct et on va commencer avec Amadi à Ziguinchor. Bonjour Amadi.
Bonjour à vous.
Et merci de nous appeler du Sénégal. Vous avez des questions après les mesures annoncées dans votre pays pour lutter contre l'insécurité routière?
Oui, bien sûr, j'ai quelques questions à vous poser. Mmh. Voilà, c'est en 2017, des mesures concernant la sécurité routière avait été déjà décidée lors d'un conseil interministériel. En quoi ces nouvelles mesures seront-elles plus efficaces que les précédentes?
Ah, effectivement, c'est une bonne question que vous vous posez. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. Alors effectivement, un conseil interministériel s'est tenu en urgence lundi soir autour du Premier ministre Amadou Ba après le tragique accident de Kaffrine. Un nouveau bilan officiel fait désormais état de 40 morts après la collision de deux bus. Charlotte, Amadi a raison de nous rappeler qu'en 2017, le gouvernement avait déjà pris toute une série de mesures pour améliorer la sécurité routière.
Voilà, c'était précisément le 9 février 2017, hein, lors d'un conseil interministériel sur la sécurité routière. Ça avait abouti à l'époque à 10 commandements, entre guillemets, je les ai sous les yeux, hein, 10 recommandations. Par exemple, c'est le point numéro 1, la mise en fourrière des véhicules sans visite technique à jour, ou encore la tolérance zéro, je cite, contre les surcharges de personnes ou de bagages. Alors effectivement, ça fait directement écho à la réunion de lundi soir. Là, ce sont 22 mesures qui ont été adoptées et il y a des dispositions qui reviennent. Par exemple, hein, dans les deux documents, l'interdiction de transformer des véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de transport de passagers. Ça, c'est une recommandation de 2017 qu'on retrouve en 2023. Ou encore l'obligation du port du casque pour les deux roues. Là aussi, ça revient. Mais il y a évidemment des nouveautés. Hein, parmi les mesures phares adoptées lundi, on peut citer par exemple l'interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs entre 23h et 5h du matin, donc la nuit sur les routes interurbaines. L'interdiction aussi d'importer des pneus usagés, des pneus d'occasion, ou encore le plombage des compteurs à 90 km/h pour les véhicules de transport de personnes et de marchandises. Le Premier ministre a parlé à la fois de prévention et de sanctions, hein, les deux volets selon lui de ce plan d'action.
En tout cas, le défi, Charlotte, ce sera de faire appliquer toutes ces mesures.
Oui, ben c'est ce que dit Amadi, hein, effectivement, sachant qu'après le Conseil de 2017, certaines mesures étaient restées lettre morte ou alors sans contrôle. Hein. Je prends l'exemple des surcharges, par exemple, ou encore l'exemple de l'âge minimum pour conduire des véhicules de transport public interurbain qui n'est pas forcément respecté. Alors oui, il y a du laxisme. Qui est responsable? Eh bien, certains pointent du doigt les chauffeurs qui sont parfois mal formés ou indisciplinés, d'autres les transporteurs avec un parc de véhicules anciens et parfois très mal entretenus, d'autres encore accusent l'État et les agents de la circulation pour la non-application des règles. En tout cas, le Premier ministre l'a reconnu hein, lundi soir, il a dit « Un des probables facteurs d'altération de l'efficacité des mesures reste le manque de suivi ». Mais bon, Amadouba a promis que les actes pris ne doivent faire l'objet ni de report ni de compromis. Donc reste à voir après les annonces si ce sera suivi des faits.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler vendredi dans la Libre Antenne. L'émission d'hier sur l'insécurité routière en Afrique a eu un tel succès qu'on aurait pu consacrer toute la matinée à cette thématique. Amadi, vous avez une dernière question ?
Oui, c'est quand seront-elles mises en place ?
Ces nouvelles mesures, effectivement, Charlotte Hidrak. A-t-on eu un calendrier ou pas ?
Oui, ça dépend desquels. Pour un certain nombre, le chef du gouvernement a donné aux ministres concernés 72 heures, donc 3 jours. Par exemple, c'est le cas pour l'interdiction de circuler la nuit, pour l'interdiction de la pose de porte-bagages. Donc là, pour ces mesures-là, si c'est 72 heures à compter de lundi soir, eh bien, elles pourraient être mises en place à partir de vendredi. Et puis, pour d'autres mesures, le délai est de 15 jours, notamment pour la mise en place d'une structure qui sera chargée de l'application rigoureuse du code de la route, pour l'importation des pneus usagés, là encore, c'est 15 jours, ou encore pour un plan visant à accélérer la modernisation et le renouvellement du parc.
Amadi, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, je suis vraiment satisfait, oui.
Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à Ziguinchor. Je souhaite également une bonne journée à Charlotte Hidrak, à Dakar, où il est 8h17. Bonjour Adriana Brandao.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre, vous êtes la chef adjointe du service en langue brésilienne de RFI. On a des questions sur le Brésil. Junior, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
À Kinshasa, vous souhaitez que l'on revienne sur les émeutes de dimanche à Brasilia?
Tout à fait, Monsieur Juan. Le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel de Brasilia ont été pris d'assaut par les partisans de Jair Bolsonaro dimanche dernier. Comment expliquer la faible résistance des forces de l'ordre face aux assaillants ?
C'est vrai, c'est une bonne question. On regarde les images, Adriana Brandao. Ce qui surprend, c'est la facilité avec laquelle les militants pro-Bolsonaro ont pu accéder finalement aux bâtiments officiels. Ils ont réussi à mettre à sac les institutions de la République. Et très rapidement, s'est posé une question. Y a-t-il eu complicité avec des policiers, avec l'armée ?
C'est cette question-là qui est posée aujourd'hui au Brésil, 3 jours après cet assaut qui a sidéré le Brésil et le monde. Les investigations sont en cours, mais tout indique qu'il y a eu connivence des forces de sécurité des Brasilia qui étaient soit mal préparées, soit passives. En tout cas, elles n'ont opposé aucune résistance à l'invasion, au vandalisme et au saccage des sièges des 3 pouvoirs brésiliens. C'était une attaque annoncée.
Oui, parce qu'il y avait des messages qui circulaient sur les réseaux sociaux et qui annonçaient une forte mobilisation, voire même une insurrection organisée le 8 janvier.
Exactement. Et en plus de ça, depuis des mois, et principalement depuis l'étroite victoire de Lula au dernier tour, au deuxième tour de l'élection présidentielle le 30 octobre, les militants bolsonaristes les plus radicaux n'acceptaient pas les résultats des urnes et campaient devant les QG de l'armée partout dans les pays en demandant une intervention militaire. Les généraux et les autorités de sécurité du gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro n'ont rien fait pour empêcher ces manifestations. Le nouveau gouvernement de Lula au pouvoir depuis à peine une semaine n'a pas pris la mesure du danger. Les résultats ont été ces scènes de pillage, de destruction inédite dans l'histoire du pays qui ont souillé la démocratie brésilienne.
Comment le gouvernement Lula a-t-il réagi ?
Lula a placé la sécurité des Brasilia dès dimanche sous l'autorité du gouvernement fédéral. Mobilisés, les forces de sécurité ont réussi à reprendre le contrôle de la situation. Des centaines de partisans de Bolsonaro ont été arrêtés le dimanche, mais aussi le lendemain lors du démantèlement du campement devant la caserne de Brasilia.
Centaines, voire même plus d'un millier de personnes arrêtées.
Dimanche et lundi. 1500 personnes ont été arrêtées.
Après, il y a eu des personnes qui ont été libérées.
Plusieurs ont été libérés, des centaines. 500 sont toujours détenus. Ils sont soupçonnés, entre autres, de terrorisme et des crimes contre l'État démocratique et risquent entre 4 et 30 ans de prison. Le gouvernement et la justice brésilienne promettent que tous les responsables seront punis. Des hauts gradés ont été écartés. Plusieurs mandats d'arrêt ont été émis visant les éventuels responsables. La situation semble au moins en apparence sous contrôle, mais les autorités craignent toujours de nouveaux actes de vandalisme. Le président Lula prêche l'union et a réussi à avoir l'appui des principaux chefs des pouvoirs législatifs, judiciaires et de tous les gouverneurs des 27 États brésiliens, y inclus les alliés de Bolsonaro.
Oui, faut dire que les Brésiliens, une partie de la population s'attend à d'autres attaques de ce type. L'inquiétude persiste donc. Junior, vous avez une autre question ?
Oui, cette invasion me rappelle la prise du Capitole aux États-Unis. Peut-on si Bolsonaro pourrait être impliqué dans cette attaque ?
Oui, alors Adriana Brandão, évidemment, ces images ne sont pas sans rappeler la prise d'assaut du Capitole à Washington il y a 2 ans. Quelle est la part de responsabilité de l'ex-président Jair Bolsonaro dans ces événements ?
Comme Trump, Bolsonaro n'a jamais reconnu les résultats des urnes. Ses attaques contre le système électoral brésilien et principalement contre le vote électronique datent même d'avant. Mais ce Capitole brésilien est beaucoup plus grave. Aux États-Unis, les extrémistes ont envahi le Congrès pour essayer d'empêcher la prise des fonctions de Biden au Brésil. Ils ont envahi et saccagé les sièges des 3 pouvoirs républicains pour provoquer un coup d'État et destituer Lula.
Ouais, Bolsonaro, il faut le rappeler, n'est plus au Brésil. Hein. Il a quitté le pays 2 jours avant l'investiture de Lula.
Exactement. Il est toujours en Floride, aux États-Unis. Il a très mollement condamné les actes de vandalisme du 8 janvier. Plusieurs parlementaires brésiliens, mais aussi américains, demandent son extradition pour qu'il soit accusé d'avoir, à minima, incité ses partisans à commettre ces actes et jugé au Brésil, comme les demandent des milliers de Brésiliens qui sont sortis dans la rue dès le lendemain de l'invasion de la place des 3 pouvoirs à Brasilia pour défendre la démocratie brésilienne.
Quel sera l'avenir judiciaire de l'ex-président Jair Bolsonaro ? La question est débattue, en tout cas en ce moment au Brésil. Merci infiniment, Adriana Brandão. Junior, on a répondu à vos questions ?
Tout à fait, monsieur Juan, merci.
Et bonne journée à Kinshasa. À bientôt, Adriana Brandão. 9h22 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Ferré.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et merci de nous appeler de l'Abbé, en Guinée. Vous avez des questions concernant le scandale du chlordécone. Le chlordécone, vous en avez certainement entendu parler sur notre antenne, c'est ce pesticide très toxique utilisé dans les champs de bananes en Martinique et en Guadeloupe. Il est responsable d'une pollution durable aux Antilles, pollution des sols, de l'eau des rivières, du milieu marin. Ferré, vous avez des questions, on vous écoute.
Effectivement, Juan. Deux juges d'instruction ont prononcé un non-lieu dans l'affaire du chlordécone aux Antilles. Alors, Juan, comment justifie-t-il cette décision alors qu'il qualifie elle-même l'affaire de scandale sanitaire ?
C'est une bonne question, effectivement. Jeanne Richard, soyez la bienvenue. Bonjour.
Bonjour.
Vous suivez les questions environnementales à RFI. C'est vrai que c'est paradoxal. On a 2 juges qui reconnaissent qu'il s'agit d'un scandale sanitaire et pourtant c'est un non-lieu définitif qui a été prononcé.
Oui, dans une ordonnance de plus de 300 pages, les deux magistrates du pôle santé publique et environnement du tribunal judiciaire de Paris ont en effet mis un terme à cette instruction ouverte en 2008. Les deux juges concluent cette ordonnance par 5 pages d'explication sur les raisons de leur non-lieu. Et c'est écrit noir sur blanc, la pollution de la Guadeloupe et de la Martinique au chlordécone est un scandale sanitaire, on le disait, et je cite, une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants des deux îles. Elles ajoutent même que l'enquête établit les comportements asociaux de certains opérateurs économiques de la filière banane qui auraient été relayés et amplifiés par l'imprudence, la négligence et l'ignorance des pouvoirs publics, administratifs et politiques qui ont autorisé l'usage du pesticide à une époque où la productivité économique primait sur les préoccupations sanitaires et écologiques.
Et malgré tout cela, Jeanne, les deux juges ferment le dossier.
Oui, elles ont décidé de suivre les réquisitions du parquet en novembre dernier, car les faits remontent selon elles à 10, 15 ou même 30 ans avant le dépôt des plaintes. Trop difficile d'établir des preuves dans ce cas. D'autre part, elles estiment que l'état des connaissances techniques ou scientifiques à l'époque ne permettait pas d'être sûr à 100% de la dangerosité du chlordécone. Finalement, on peut dire que pour la justice, il y a prescription. Mais ces explications explications ne sont pas convaincantes pour les habitants de Martinique et de Guadeloupe, parce que le chlordécone a été autorisé dans les îles jusqu'en 1993 sous dérogation, quand le reste du territoire français en avait déjà interdit l'usage en 1990. Il a été banni des Antilles 15 ans après les alertes de l'Organisation mondiale de la santé. Je rappelle que les autorités sanitaires françaises estiment aujourd'hui que 90% de la population antillaise est contaminée au chlordécone. Un quart des Martiniquais et 14% des Guadeloupéens risquent de développer une maladie liée à cette surexposition. Et les Antilles détiennent déjà le record mondial de cancer de la prostate. Donc selon les parties civiles, ce non-lieu, c'est une honte, un scandale judiciaire en plus du scandale sanitaire.
Une autre question, Ferré.
Les parties civiles pourraient-elles faire appel ou est-ce que d'autres instances pourraient-elles être saisies ?
Jeanne Richard.
Ah oui, presque immédiatement après la décision des juges parisiennes, les avocats des parties civiles ont annoncé faire appel. Et si le procès en appel ne leur donne pas raison, certains ont déjà affirmé être prêts à se pourvoir en cassation ou même aller devant une juridiction supérieure, la Cour de justice européenne. On peut préciser aussi que dans leur ordonnance, les deux juges ont prononcé le non-lieu la semaine dernière. Elles invitent même assez ouvertement les victimes du chlordécone à profiter du lien de cause à effet entre cancer et le pesticide, qui est aujourd'hui bien établi, disent-elles, pour saisir d'autres instances judiciaires.
Merci infiniment, Jeanne Richard. Très bonne journée à Ferré, qui nous appelait de la Baie. J'ai le plaisir d'accueillir Martin Guez, du service des sports de RFI.
Avec plaisir partagé.
Merci Martin. On va parler football. La retraite internationale d'Hugo Lloris. Bonjour David.
Bonjour Juan, bonjour Martin, même Hervé à toute l'équipe de la RFI.
Merci, bonne année à vous. Vous êtes au Tchad, dans la région du lac, exactement. On vous écoute, vos questions.
Bagassola,
très bien.
Okay. Oui, Juan, après 14 ans de sélection de l'équipe de France, le gardien Hugo Lloris a annoncé prendre sa retraite internationale. Juan, il détient le record de capitaine. Qui pourrait prendre le flambeau? Kylian Mbappé est-il le favori?
Ah, Martin Guez, c'est vrai qu'une page se tourne. Qui va récupérer le brassard de capitaine désormais au sein de l'équipe de France?
Ah bah c'est la bonne question que se pose David au Tchad. Kylian Mbappé, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de supporters ont envie de le voir endosser ce rôle, lui qui est déjà un peu le leader sur le terrain. On se rappelle forcément son triplé en finale de Coupe du Monde à seulement 23 ans. Il n'en avait même pas 24 à ce moment-là. Mais dans l'esprit de Didier Deschamps, c'est peut-être plutôt Raphaël Varane qu'il va falloir se tourner. Lui qui a déjà été 16 fois capitaine de l'équipe de France quand Lloris n'était pas là ces dernières années. Raphaël Varane, c'est le vice-capitaine, c'est le monsieur propre un peu de cette équipe. On sait que c'est aussi un leader qui, dans le vestiaire, parfois peut prendre la parole. Il a été très responsable, très jeune. Il a été capitaine à 17 ans quand il était à Lens avant de jouer au Real où il a tout gagné, a joué à Manchester City. Donc même si Kylian Mbappé incarne ce côté leader sur le terrain, ce côté leader du foot français, il prend aussi beaucoup la parole sur les réseaux sociaux. Ça, il aime un peu moins Didier Deschamps. Il faudrait aussi qu'il passe par un exercice qu'il n'aime pas trop, celui de la conférence de presse d'avant-match. Et ça, c'est obligatoire quand on est capitaine. Donc peut-être dans un premier temps Varane, peut-être dans un second Kylian Mbappé, mais qui sait, à force de s'imposer, peut-être que Kylian Mbappé arrivera à forcer aussi le brassard de l'équipe de France.
On verra quel sera le choix de Didier Deschamps. Une dernière question, David.
Oui, Hugo Lloris a désigné Mike Maignan comme son successeur. Le portier de l'AC Milan pourrait-il reprendre le poste de gardien titulaire au sein de l'équipe de France?
Effectivement, là aussi, il va falloir remplacer Hugo Lloris.
Successeur naturel, Mike Maignan, qui est un peu meilleur que Lloris sur l'exercice des
pénalties,
exactement. Il est très bon sur sa ligne aussi, mais il est blessé en ce moment, le gardien de l'AC Milan. David a raison, c'est sûrement lui qu'on va voir dans la cage des Bleus dans les futures années. Mais pour l'instant, l'intérim de mars qui se profile, les matchs de qualification pour le prochain Euro, ce serait un ancien qui pourrait reprendre aussi les buts français, Steve Mandanda, de Kinshasa, qui
était au Qatar,
38 ans.
Qui était au Qatar,
le numéro 2, l'éternel numéro 2. Il a toujours été un peu dans l'ombre d'Hugo Lloris. Il a quand même raflé 35 sélections depuis 2008, depuis qu'il est là, l'actuel gardien rennais. Donc c'est sûrement lui qui va assurer l'intérim. Puis Mike Maignan qui prendra la suite. On verra aussi sur des noms comme celui d'Alban Lafont ou Brice Samba, l'ancien, le fils en tout cas de l'ancien gardien du Congo-Brazzaville qui fait des merveilles avec Lens, pourrait aussi peut-être prendre le flambeau. On pense aussi forcément à Alphonse Areola, l'ancien gardien du PSG, qui était gardien numéro 3 au Qatar, qui lui joue à West Ham en Angleterre.
Donc Didier Deschamps a le choix.
Effectivement, il a le choix du roi. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent pour prendre la suite de Hugo Lloris.
Voilà qui était clair et précis. Martin Guez, bonne journée. David, bonne journée à Bagassola.
Merci bien, Juan. Également à vous.
Merci. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après avec vos très nombreux témoignages concernant la hausse des prix du carburant en Afrique et la pénurie d'essence dans certains pays.